Ne m'appelez pas Abraham. Appelez-moi Abe. Bien que ce soit le nom que m'a donné ma mère, je ne l'ai jamais aimé. Abraham est si vaniteux, si biblique, si... Je crois que le mot que je cherche, c'est patriarcal. S'il y a une chose que je ne suis pas, que je ne veux pas être, c'est un patriarche. À une époque, j'ai cru que j'aimerais avoir au moins un enfant, mais ces jours-ci, la vue des petits me donne des sueurs froides. Il y a quelques années, peu importe combien, je me suis mis à la pêche. Je pêche depuis assez longtemps pour connaître une ou deux histoires, comme vous pouvez l'imaginer. C'est bien ce que sont les pêcheurs, non? Des raconteurs d'histoires. Certaines qui me sont arrivées, d'autres que je tiens de bouches étrangères. La plupart sont drôles, elles vous feront sourire, rire parfois, ce qui n'est pas rien. Un éclat de rire peut vous sortir d'un mauvais pas, croyez-moi. Certaines de mes histoires appartiennent à ce que j'appellerais le domaine de l'étrange. Je n'en connais que quelques-unes. Mais en les entendant, vous me regarderez d'un air perplexe. Vous aurez peut-être un petit frisson, pas forcément désagréable. Et il y en a une. Bon, elle est carrément horrible. Presque trop pour qu'on la raconte. C'est arrivé il y a presque 10 ans, le premier samedi de juin. À la fin de cette journée, j'ai perdu un ami proche et une bonne partie de mon esprit. J'ai bien failli laisser ma peau et même plus que ça. J'ai arrêté la pêche pendant pas loin d'une décennie. Et même si j'ai repris, rien sur terre ni sous terre ne me fera retourner dans les Catskills, à Dutchman's Creek, un endroit qu'un homme que j'aurais dû écouter appelait « Der Platz des Fischers ». Vous localiserez cette rivière sur votre carte si vous cherchez bien. Allez jusqu'à la pointe est du réservoir d'Ashokan, au niveau de Woodstock, et revenez sur vos pas en suivant la rive sud. Il vous faudra peut-être une ou deux tentatives. Vous verrez une ligne bleue qui démarre tout près du réservoir et serpente jusqu'à l'Hudson, en passant au nord de Wiltwyck. C'est là que tout est arrivé, bien que j'ai encore du mal à comprendre quoi exactement. Je ne peux vous raconter que ce que j'ai entendu et vu. Dutchman's Creek est profonde, bien plus qu'elle ne le pourrait ou le devrait, et je préfère ne pas penser à ce qu'il y a dedans. J'ai parcouru les bois qui l'entourent jusqu'à un lieu que vous ne trouverez pas sur votre carte, ni sur aucune de celles que vous pourriez acheter. Je me suis tenu sur le rivage d'un océan dont les vagues étaient d'un noir d'encre. J'ai vu une femme à la peau pâle, comme le clair de lune, ouvrir la bouche, l'ouvrir et l'ouvrir encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une grotte hérissée de dents crénelées qui n'aurait pas déparé dans la gueule d'un requin. J'ai brandi un vieux couteau d'une main qui tremblait irrépressiblement devant les trois créatures de cauchemar qui fondaient sur moi. Mais je brûle les étapes. Il y a d'autres choses que vous devez entendre avant, comme ce qui est arrivé à Dan Drescher, ce pauvre, pauvre Dan, qui est monté dans les Catskills avec moi ce matin-là. Comme l'histoire de Howard, que je comprends bien mieux maintenant que lorsqu'il me l'a raconté chez Herman's Diner. Il faut que vous en sachiez un peu plus sur la pêche aussi. Tout doit être à sa place. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est un récit mal ficelé. Une histoire ne doit pas être montée comme une sorte de maison préfabriquée. Non, elle doit suivre son propre cours. Elle doit couler. Même un conte aussi noir que celui-ci suit son chemin. Vous devez vous demander pourquoi je prends de telles précautions. Certaines choses sont si mauvaises que le simple fait de vous en être approché vous salit, laisse une souillure dans votre âme, comme une parcelle de forêt où rien ne pousse. Pensez-vous qu'une simple histoire puisse porter un tel mal en elle? C'est un peu trop espéré, non? C'est peut-être vrai pour les petites injustices. Vous savez, le genre de frustration mineure que vous pouvez transformer en anecdote amusante dans les soirées. Mais pour ce qui est arrivé à la rivière, je doute qu'une telle transformation soit possible. Seule la transmission l'est. Et c'est loin d'être tout. Il y a l'histoire que Dan et moi avons entendue chez Hermans. Depuis que Howard nous a raconté ce qui a frappé Lottie Schmidt et sa famille il y a environ 90 ans, j'ai du mal à penser à autre chose. Dire que ces paroles m'ont marqué serait l'euphémisme de l'année. Je me souviens de cette histoire au mot près, comme Howard se rappelait les moindres paroles du pasteur qui la lui avait rapportées. Et si ma mémoire est si claire, c'est sans doute en partie parce que le récit de Howard explique pas mal des choses qui nous sont arrivées plus tard ce jour-là, à Dan et à moi. Cette histoire à propos de la construction du réservoir et de qui, ou ce qui, a été recouvert par ces eaux, rôde dans mon cerveau. Même si nous avions tenu compte des conseils de Howard et évité la rivière, bordel, même si nous avions fait demi-tour et étions rentrés chez nous ventre à terre, ce que nous aurions dû faire, je suis certain que ce que nous avons entendu aurait marqué ma mémoire au fer rouge. Est-ce qu'une histoire peut vous hanter, vous posséder? Parfois, je me dis qu'évoquer ce qui est arrivé ce samedi 2 juin n'est qu'un prétexte permettant à ces lointains événements de remonter à la surface. Mais, encore une fois, je vais trop vite. Il y aura un temps pour tout, y compris l'histoire de Lottie Schmidt, de son père, Rainer, et de l'homme qu'il appelait Der Fischer. Revenons un peu en arrière. Commençons par quelques mots sur la grande passion de ma vie, ou en tout cas ce que je considérais comme tel, la pêche. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris enfant. Mon père m'a emmené pêcher une ou deux fois, mais il n'était pas très bon. Alors il préférait m'enseigner ce qu'il connaissait, comme le baseball et la guitare. Un jour, peut-être 25 ou 30 ans après que mon père et moi avons passé notre dernier samedi matin à soumettre un seau de verre à une noyade prolongée, je me suis réveillé et j'ai pensé « j'ai envie d'aller pêcher ». Effacez ça. Je me suis réveillé et j'ai pensé « il faut que j'aille pêcher ». C'était un besoin viscéral, comme on convoite un grand verre d'eau rempli de glaçons par un après-midi torride de juillet. Pourquoi éprouvais-je ce besoin entre tous? Je n'en ai pas la moindre idée. Certes, j'étais un peu à cran. Ma femme venait de mourir, après même pas 2 ans de mariage, et je vivais littéralement tous les clichés qu'on voit dans les téléfilms et qu'on entend dans les chansons country. En d'autres termes, je buvais trop, et comme mon père n'était pas non plus très porté sur la boisson, je buvais mal. Une demi-bouteille de scotch suivie d'une demi-bouteille de vin, elle-même suivie de longues sessions de cramponnage à la cuvette des toilettes, tandis que la salle de bain dansait la gigue autour de moi. Mon job aussi était parti en vrille. J'étais analyste système chez IBM à Poughkeepsie. Mais j'avais la chance d'avoir un manager qui m'avait mis en congé maladie plutôt que de me virer comme un moins que rien. Ce que je méritais pourtant. À cette époque, IBM était encore une bonne boîte. Mes supérieurs avaient accepté que je reste chez moi pendant 3 mois sans perte de salaire. Ça paraît incroyable aujourd'hui. J'ai passé l'essentiel du premier mois à regarder le monde à travers le fond de plus de bouteilles que je ne pourrais en compter. Je mangeais quand j'y pensais, c'est-à-dire pas souvent, et mes repas se résumaient à un flot ininterrompu de sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture, entre lesquels s'intercalaient parfois des burgers et des frites. Le deuxième mois a presque été un décalque du premier, à l'exception des visites de mon frère et de mes beaux-parents qui eux-mêmes n'allaient pas assez bien pour être d'un grand soutien. On souffrait tous. Marie était une fille comme aucune autre. Imaginez qu'on vous arrache une molaire avec une pince. La perte de Marie ressemblait un peu à ça, une plaie ouverte qui résonne dans tout votre corps. Et de la même façon que vous vous passez la langue dessus, jusqu'à ce que la douleur vous foudroie, aucun de nous ne pouvait s'empêcher de titiller nos souvenirs communs jusqu'à ce que ça fasse mal. Au milieu du troisième mois, j'étais assis en sous-vêtements sur le canapé devant la télé, et je buvais tout ce qui me passait sous la main.